Eh bien, bonjour, frères et sœurs, joyeux sabbat à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien là, vous portez bien là où vous êtes. Nous avons été attristés ces derniers jours, semaines, de voir la guerre s'éclater de nouveau sur la frontière entre Israël et la bande de Gaza, entre Israël et Hamas, ainsi que des violences entre musulmans et juifs dans d'autres coins d'Israël. Il semble encore une fois que la paix soit vraiment impossible dans cette région. Et ça ne devrait pas nous surprendre, puisqu'il y a des prophéties dans la Bible qui indiquent depuis longtemps que ce serait le cas, et de plus en plus le cas, plus nous nous rapprochons du temps de la fin. Dans un sens plus large, on attribue à Platon la phrase « Seuls les morts ont vu la fin de la guerre ». Et c'est vrai, dans toute l'histoire de l'humanité, la guerre est constante. C'est vrai que depuis que Caïn a assassiné son frère Abel, les hommes s'entretuent. Ils s'entretuent pour des terres, avoir des terres, pour s'enrichir, à cause d'un affront réel ou imaginaire, pour préempter une attaque d'un adversaire, pour imposer leur religion, et pour combien de raisons encore. Il semble qu'il n'y en a, il n'y a pas de fin. Il y a actuellement, selon sa façon de le calculer, plusieurs guerres, certainement des conflits internes qui sévissent dans plusieurs endroits dans le monde. En Afghanistan, en Éthiopie, au Yémen, en Syrie, au Mexique, en Turquie, en Somalie, dans la région du Maghreb et du Sahel, ça c'est dans les nouvelles souvent en France, en Irak, en Libye et j'en passe. Il y a probablement d'autres qu'on pourrait trouver. Dans toutes ces régions, le sang coule, les États et les groupuscules s'affrontent dans les guerres, le plus souvent des guerres civiles. Si on repasse en revue la liste qu'on vient de lire, eh bien, c'est souvent des guerres civiles. Pourtant, malgré ces guerres, ces affrontements, ces tueries, tous ces pays interdisent à un individu d'ôter la vie à un autre. Comment est-ce qu'on justifie le fait qu'un homme en tue un autre quand les lois de tous ces pays interdisent cela entre particuliers? Si c'est organisé, ça va. Si c'est entre particuliers, c'est interdit. Comment est-ce qu'on arrive à ce raisonnement? Eh bien, le philosophe grec Aristote a introduit le concept et la terminologie de la guerre juste dans le monde hellénique. C'est lui qui a créé ce terme. La guerre devait être le dernier recours et une guerre juste exigeait une conduite qui ne rendrait pas impossible le rétablissement de la paix par la suite. Mais Aristote a approuvé la guerre pour éviter de devenir l'esclave des autres, comme une légitime défense. Plus tard, Augustin d'Hippone, saint Augustin pour les catholiques, au 5e siècle de notre ère, a soutenu que bien que les individus ne doivent pas recourir immédiatement à la violence, Dieu a donné l'épée au gouvernement, à l'État, pour une bonne raison. Il se basait sur Romains chapitre 13, verset 4. Dans son ouvrage Contra Faustum Manicheum, livre 22, section 69 à 76, Augustin soutient que les chrétiens, en tant que citoyens d'un État, n'ont pas à avoir honte de protéger la paix, entre guillemets, et de punir la méchanceté lorsqu'ils sont contraints de le faire par leur État. Augustin affirmait qu'il s'agissait d'une position philosophique personnelle. Ce qui est ici requis n'est pas une action corporelle, mais une disposition intérieure. Le siège sacré de la vertu est le cœur. Ça, c'était son idée. Néanmoins, il a aussi affirmé, maintenir la paix face à un grave tort qui ne pourrait être arrêté que par la violence, accepter ça serait un péché, d'après lui. L'autodéfense ou la défense des autres peut être une nécessité, surtout lorsqu'elle est autorisée par une autorité légitime, encore une fois. Ceux qui ont fait la guerre en obéissance au commandement divin ou en conformité avec ses lois ont représenté en leur personne la justice publique ou la sagesse de l'État. Et en cette qualité, ont mis à mort des hommes méchants, ces personnes n'ont en aucun cas violé le commandement « Tu ne tueras point ». Ça, c'était son raisonnement à lui, Augustin. Puis au XIIIe siècle de notre ère, Thomas d'Aquin, saint Thomas pour certains encore une fois, dans Summa Theologica, d'Aquin affirmait que ce n'est pas toujours un péché de faire la guerre, et il a défini des critères d'une guerre juste. Selon Thomas d'Aquin, trois conditions doivent être remplies. Premièrement, la guerre doit être menée sous le commandement d'un souverain légitime. Deuxièmement, la guerre doit être menée pour une cause juste, à cause de certains torts que les attaqués ont subis. Et troisièmement, les soldats doivent avoir la bonne intention, de savoir promouvoir le bien et éviter le mal. On peut tuer si on a des bons sentiments dans son cœur. Thomas d'Aquin est arrivé à la conclusion qu'une guerre juste pouvait être offensive et que l'injustice ne devait pas être tolérée pour éviter la guerre. Néanmoins, il a soutenu que la violence ne doit être utilisée qu'en dernier recours et que sur le champ de bataille, la violence n'était justifiée que dans la mesure où elle était nécessaire. Les soldats devaient éviter la cruauté et une guerre juste était limitée par la conduite de combattants justes. Thomas d'Aquin a soutenu que ce n'était que dans la poursuite de la justice que la bonne intention d'un acte moral pouvait justifier des conséquences négatives, y compris la mort d'innocents pendant la guerre. Aujourd'hui encore, la plupart des pays au monde s'appuient sur ces raisonnements pour justifier leur entrée en guerre. Mais cela donne souvent des désaccords de justification de part et d'autre. Les deux prétendent qu'eux, ils sont les attaqués ou ils sont en position défensive et ils se renvoient mutuellement la responsabilité. Au début de la guerre 14-18, en France et en Belgique, un groupe de théologiens en Allemagne a publié un manifeste cherchant à justifier les actions du gouvernement allemand. La guerre est juste, nous sommes justes. À la demande du gouvernement britannique, l'archevêque de Canterbury a ensuite pris l'initiative de collaborer avec un grand nombre d'autres chefs religieux pour rédiger une réfutation des affirmations des Allemands. Alors, ces théologiens allemands et britanniques se sont tous deux basés sur la théorie de la guerre juste pour se renvoyer la responsabilité. Et ce n'est pas le seul exemple de cela qu'on peut trouver dans l'histoire. Que pense Dieu de tout cela? Et comment un chrétien devrait-il faire face au service militaire et à la guerre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit considérer ça et comment est-ce qu'on doit agir? Mais déjà, il y a une chose à noter au départ, c'est que ces théologiens catholiques croyaient que l'Église catholique était le royaume de Dieu sur terre et que le pape était assis à la place de Jésus-Christ. Donc, il avait autorité de légiférer là-dedans. Et si le royaume de Dieu voulait partir en guerre ou envoyer les gens en guerre, il avait le droit, il représentait Dieu. Mais le Nouveau Testament représente que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, n'est pas une église aujourd'hui, n'est pas sur terre du tout. L'Église catholique n'est pas le royaume de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons nous fier à ce que dit la Bible plutôt que à ce que disent les hommes. Même quelqu'un de haut placé dans une église quelconque. Tout ceci nous amène à une croyance fondamentale de l'Église de Dieu. C'est la croyance fondamentale numéro 16 qui dit ceci. Croyance fondamentale numéro 16. Et le titre de cette croyance fondamentale est le service militaire et la préparation à la guerre. Service militaire et préparation à la guerre. Voici cette croyance. Conformément à l'enseignement de Jésus, selon lequel nous devons aimer nos ennemis, et conformément à l'instruction divine de respecter la vie humaine, les chrétiens ne devraient pas participer au service militaire. Selon l'enseignement biblique, si quelqu'un hait son frère, il devient un meurtrier. Être soldat crée des problèmes pour observer le sabbat et des jours saints. Puisque les chrétiens doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ils doivent maintenir la liberté de diriger leur vie. Les chrétiens doivent faire attention de ne pas permettre aux questions et aux préoccupations humaines de les détourner de leur rôle d'ambassadeur pour le royaume de Dieu à venir. Christ a déclaré que son royaume n'était pas de ce monde, ses serviteurs ne doivent pas donc se battre. Voilà la croyance fondamentale numéro 16. Et comme je fais habituellement dans cette série de sermons sur nos croyances fondamentales, je vais le prendre phrase par phrase et nous allons voir le soutien biblique pour chacune de ces phrases et donner quelques mots d'explication pour être certain que nous comprenions bien ce que la Bible dit à ce sujet. Alors, la première phrase. Conformément à l'enseignement de Jésus selon lequel nous devons aimer nos ennemis et conformément à l'instruction divine de respecter la vie humaine, les chrétiens ne devraient pas participer au service militaire. C'est clair. Maintenant, quels sont les appuis bibliques pour cette première phrase? Eh bien, je vous demande de vous reporter à Genèse chapitre 9, verset 6. Genèse chapitre 9, verset 6. Nous sommes dans le contexte ici, dans Genèse 9, après le déluge, Noé sort de l'arche avec sa famille, avec ses fils, et Dieu établit une alliance avec Noé et avec ses descendants, la suite d'une humanité qui va venir de ces familles. On aurait pu croire que la vie humaine n'avait pas une grande importance aux yeux de Dieu, puisqu'il venait de noyer pratiquement tout le monde dans ce déluge. Il avait détruit la terre, il avait détruit tous les hommes, sauf une famille. Est-ce que ça voulait dire que Dieu prenait la vie humaine à la légère? Bien au contraire. Et il va souligner cela dans ce passage. Genèse chapitre 9, verset 6. Mais prenons le verset 1 pour mieux voir le contexte ici. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez aussi, je redemanderai le sang de vos âmes et je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Tout de suite à la sortie de l'arche, Dieu souligne de nouveau l'importance, le côté sacré de la vie. La vie appartient seulement à Dieu. La vie appartient à Dieu, c'est Dieu qui donne la vie. Dieu peut reprendre la vie, il a entièrement droit à le faire quand il veut, mais il ne donne pas ce droit aux êtres humains. Il préconise la peine de mort en cas de meurtre, ça nous le voyons ici. Dieu peut établir certaines lois ou règlements concernant la peine capitale, mais en dehors de ce cadre que Dieu donne, les êtres humains n'ont pas le droit de prendre la vie à d'autres êtres humains. Dieu donne la vie, ça lui appartient. Dieu en dispose, mais l'être humain n'en dispose pas. Un peu plus tard, dans Exode chapitre 20, nous avons bien entendu les 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 13. Attardons-nous un instant sur ce 6e commandement. Verset 13. C'est très clair, c'est très court. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Maintenant, c'est mieux traduit, et certaines traductions de la Bible vont le mettre, c'est mieux traduit par « tu ne commettras pas de meurtre », parce que Dieu explique que dans certains cas, la peine capitale est imposée. Et dans le cas où Dieu donne l'ordre à Israël de partir à une bataille ou à une guerre, ça c'est sous le commandement de Dieu, dans ce cas-là, les hommes peuvent et doivent tuer. Mais en dehors de cela, il est question de meurtre. Il est question de meurtre. Comme j'ai dit, la peine capitale a été autorisée, même exigée pour certains crimes comme le meurtre. Et Dieu donnait parfois l'ordre à son peuple physique de faire la guerre. Mais en dehors de cela, il ne fallait pas tuer. L'homme n'a pas l'autorité de faire la guerre comme bon lui semble, quand ça semble juste à ses yeux. Parce que nous avons déjà vu au moins un exemple où les hommes sont toujours convaincus d'être dans la justice. Ça, c'est fait partie de la nature humaine. Toutes les voies d'un homme sont justes à ses propres yeux. La Bible le répète. Alors, dans une guerre juste, les deux côtés vont se croire dans la justice pour tuer d'autres personnes. Ici, le mot tuer en hébreu ici a le sens de préméditation, de planification, d'intention de tuer, avoir l'intention de donner la mort à quelqu'un. C'est ça le mot ici. Évidemment, quand il s'agit de la guerre, on planifie bien, on se prépare bien, on s'entraîne bien pour pouvoir tuer le plus efficacement possible. Donc, à moins que Dieu nous dise de le faire, on ne doit pas, on ne peut pas, selon les instructions que nous voyons ici. Il y a même un cas qui montre que cette préméditation est importante. Il y a un autre passage que je n'ai pas noté, mais vous avez entendu parler de cela probablement. Si un voleur casse une maison ou entre par effraction dans une maison la nuit et le propriétaire surpris lutte pour chasser le voleur et il le tue par accident, eh ben, il n'y a pas de mal. Il n'est pas puni pour cela parce qu'il n'y a pas eu de préméditation. Dans le noir, on peut pas voir ce qui se passe. Et si il y a une mort, il n'est pas coupable le propriétaire de la maison. Ça montre bien cette idée de préméditation. On le fait exprès. Si on tue exprès, là, c'est le meurtre et c'est quelque chose qui est puni selon la loi de Dieu. Regardons un autre passage qui est cité dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 21. Matthieu chapitre 5, verset 21. Nous sommes dans le sermon sur la montagne, comme on le dit communément, et ce que Jésus est en train d'expliquer dans ces trois chapitres, Matthieu 5, 6 et 7, et les passages parallèles dans les autres évangiles, c'est comment le christianisme va aller plus loin que ce qu'on pourrait appeler le judaïsme. Ce que la Nouvelle Alliance exige des chrétiens qui n'étaient pas clairement exigés des gens sous l'Ancienne Alliance. C'est la différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 21. « Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. » Donc, Jésus explique ici que même un sentiment de haine, de dépit, des sentiments d'insulte qu'on ressent envers quelqu'un, on a déjà transgressé le commandement « tu ne tueras point, tu ne commettras pas de meurtre ». Est-ce que c'est possible de ne pas haïr son frère tout en le tuant? Je ne vois pas comment cela se peut. Il n'est pas question de l'un ou l'autre, ou on ne tue pas, ou on ne haït pas. Non, c'est les deux. Il ne faut pas tuer physiquement, et il ne faut même pas avoir le désir de le faire dans son esprit. C'est une transgression du commandement. Regardons aussi Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, dans ce même contexte. Luc chapitre 6, à partir du verset 27. Luc chapitre 6, verset 27, on va lire jusqu'au verset 35. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux à qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Faire du bien à vos ennemis. Il n'a pas dit « va les tuer, va les assassiner ». Tes ennemis. Il allait faire du bien. Il faut prier pour eux, il faut leur prêter, il faut faire du bien. Jésus explique dans ce passage comment être son disciple exige plus que le respect de la lettre de la loi seulement. Il ne faut pas arrêter le cœur de quelqu'un. Mais évidemment, il ne faut pas arrêter le cœur de quelqu'un. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Le chrétien doit respecter la lettre, bien sûr, mais maintenant, il doit aussi respecter l'esprit, aimer son prochain comme soi-même, et de ne pas avoir de la haine, ne pas être en colère contre quelqu'un au point de vouloir lui faire du mal. Non seulement il ne faut pas tuer, mais il ne faut pas se fâcher contre son frère. Le meurtre est motivé par la colère, la haine, le dédain pour quelqu'un d'autre, et ça ne peut pas être la motivation d'un chrétien. Et cela, tout cela est pratiquement impossible à éviter quand on part à la guerre. On est obligé de dédaigner l'ennemi si on va le tuer. On ne le met pas en estime, on ne le met pas au plus haut que soi-même, c'est bien le contraire. Dans la plupart des armées au monde aujourd'hui, on déshumanise l'ennemi. On forme les soldats à ne pas les voir comme des êtres humains, à les voir comme des animaux, des cafards. On a vu ça au Rwanda, on traitait les Tutsis de cafards. Et il fallait les voir comme des bestioles et non pas comme un être humain qui est digne d'amour et de respect puisque créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'on peut aimer son frère tout en le tuant? Non, c'est un non-sens. On ne peut pas, même si une autorité légitime nous dit de le faire, Dieu nous dit de ne pas le faire. Dieu nous dit de ne pas le faire. La deuxième phrase que nous trouvons dans cet énoncé de croyance fondamentale, c'est selon l'enseignement biblique, si quelqu'un est son frère, il devient un meurtrier. Et on vient de voir ça, que nous devons aimer nos ennemis. Mais si nous regardons 1 Jean chapitre 3, premier épître de Jean chapitre 3, verset 15, 1 Jean chapitre 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si nous prenons la vie de quelqu'un en dehors des conditions que Dieu a bien mises en place, et il n'y en a pratiquement pas, eh bien, nous devenons un meurtrier. Et nous nous enlevons de la voie qui mène vers la vie éternelle. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et comme j'ai dit, quand on part à la guerre, on est presque obligé de développer une haine pour l'ennemi. Parce que ce n'est pas une chose facile pour la plupart des êtres humains de tuer un autre être humain. Des recherches ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale parmi l'armée américaine et des recherches ont montré qu'un bon pourcentage de soldats, ils faisaient tout ce qu'on leur demandait de faire, ils étaient en ligne contre l'ennemi, mais beaucoup refusaient de tirer pour tuer. Ils tiraient parfois dans la direction de l'ennemi, mais ils ne visaient pas. Parce que c'est très difficile de penser à tuer un autre être humain. Des personnes déséquilibrées, des malades, ceux qui ont des maladies mentales peuvent le faire, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, mais la plupart des gens ont beaucoup de mal à franchir cette étape et de tuer un autre être humain. Alors l'armée américaine, pour créer des soldats plus efficaces, ils ont développé un programme pour les entraîner où ça devenait automatique, où ils ne devaient pas réfléchir sur la question. Il n'y avait pas de question morale, est-ce que je tire ou est-ce que je ne tire pas. Ça se faisait par réflexe. Et ils ont réussi. La plupart des armées au monde ont suivi également. Ils ont réussi à augmenter notablement le pourcentage de soldats qui étaient prêts à tirer et à tuer pour avoir une armée plus efficace. Et une des stratégies qui est utilisée, c'est de former les soldats à ne pas voir l'ennemi comme un être humain. Et ça, c'est clairement un signe de haine. Quand on ne va pas donner le respect à l'autre personne d'être un être humain comme soi-même, eh bien, on est en train de le dédaigner et de le traiter comme un objet ou un animal ou autre chose. C'est de la haine. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Troisième phrase dans cet énoncé de croyance. Être soldat crée des problèmes pour observer le sabbat et les jours saints. C'est logique. Quand on est dans un service militaire, on est obligé de suivre les ordres. Et si le commandant dit aujourd'hui nous partons en patrouille ou nous partons en entraînement le jour du sabbat, ben, un soldat ne peut pas dire ah non, j'ai pas envie, c'est le sabbat, je ne peux pas partir aujourd'hui. C'est inacceptable. Il passera devant la justice. La même chose pour les jours saints. On a perdu la possibilité, la liberté dans sa vie de pouvoir respecter la volonté de Dieu lors des jours saints, entre autres choses. 1 Corinthiens chapitre 7. On ne peut pas toujours maîtriser ce qu'on a à manger. Il y a beaucoup de complications qui peuvent avoir lieu quand on perd sa liberté de diriger sa vie comme on veut. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 21. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui était appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Notez la fin du verset 23. Ne devenez pas esclaves des hommes. Maintenant, bien sûr, des soldats dans les militaires ne sont pas des esclaves. Mais ils n'ont pas la liberté de diriger leur vie comme ils veulent. Ils ont perdu cette liberté. Si un officier donne un ordre légitime, il est obligé d'obéir. Il a perdu cette liberté. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont esclaves, beaucoup sont volontaires, je comprends tout cela. Mais je mets l'accent sur le fait que Paul dit, on veut avoir cette liberté est importante, et volontairement, on ne doit pas se mettre sous une autorité quasiment illimitée d'un autre homme, parce que ça peut nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, comme nous le comprenons dans la parole de Dieu. Ce principe, nous le croyons dans l'Église, s'applique au service militaire. Quand on est militaire, on doit obéir aux ordres des hommes. Et ça mène souvent à des conflits entre l'autorité humaine, légitime selon les hommes, et l'autorité de Dieu. Et dans ce cas-là, nous comprenons, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans l'armée, on est obligé de suivre les ordres à la lettre. Sinon, c'est la prison ou c'est autre chose, parfois la mort même. Alors, observer le sabbat et les fêtes, ça devient problématique, voire impossible, dans le plus souvent, dans certaines circonstances. Ce qui nous amène à la quatrième phrase de cet énoncé des croyances, puisque les chrétiens doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ils doivent maintenir la liberté de diriger leur vie. Cette phrase va de pair avec la phrase précédente. Puisque les chrétiens doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ils doivent maintenir la liberté de diriger leur vie dans l'obéissance à Dieu. Regardons Actes chapitre 5, verset 29. Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres sont arrêtés. Commençons verset 24 pour voir le contexte. Acte chapitre 5, verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Il est très populaire avec le peuple. Le message, l'évangile. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Ironique, parce que avant la mort de Jésus, ils ont dit que le sang de cet homme soit sur nous. Maintenant, ils ont peur et ils accusent les apôtres de vouloir faire venir tomber ce sang sur eux. C'était des autorités légitimes, des autorités de l'Église. Jésus a dit, il faut obéir à ce que disent les pharisiens, les chefs religieux, mais ne faites pas comme ils font, mais faites ce qu'ils vous disent de faire. C'était une autorité légitime. Mais ici, cette autorité légitime parmi les hommes contredisait un commandement que Jésus-Christ leur avait donné. Et là, Pierre expliquait, dans ce cas-là, quand il y a un conflit entre les lois humaines et les lois de Dieu, il faut obéir à Dieu. Verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En général, presque toujours, dans la vie normale, le chrétien doit être un citoyen modèle. Il doit respecter les lois du pays. Parce que Dieu veut que nous soyons de bons exemples de ce genre, de respecter les lois du pays. Mais dans les rares cas, extrêmement rares, des cas où il y a un conflit entre les lois humaines et la loi de Dieu, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est la situation que nous voyons avec le service militaire. Même dans certains pays, le service militaire devient de plus en plus volontaire dans le monde en général. Il y a encore quelques pays où il y a des appelés plutôt que des engagés. Mais le plus souvent maintenant, cette menace tend à disparaître. C'est plutôt volontaire maintenant. Mais dans les rares cas où quelqu'un est appelé malgré lui, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et on parlera un peu plus de ça en détail dans un instant. Cinquième phrase d'un énoncé des croyances. Les chrétiens doivent faire attention de ne pas permettre aux questions et aux préoccupations humaines de les détourner de leur rôle d'ambassadeur pour le royaume de Dieu. Les chrétiens doivent faire attention de ne pas permettre aux questions et aux préoccupations humaines de les détourner de leur rôle d'ambassadeur pour le royaume de Dieu à venir. Regardons Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 57. Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Il avait la bonne volonté. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse se reposer la tête. » Apparemment, Jésus n'avait pas de maison à lui. Il était constamment en voyage pour faire l'œuvre de Dieu. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Nous appliquons ce dernier verset, cette dernière phrase, au baptême. Une fois qu'on s'engage par le baptême, si on regarde en arrière, si on a des doutes à propos ou des regrets, eh bien, on n'est pas digne du royaume de Dieu. Ça, c'est le prix à payer pour être disciple. C'est le prix à payer pour suivre Jésus-Christ, pour être son disciple. Le royaume de Dieu d'abord. Le reste de la vie après. Ça, c'est le prix d'être disciple. On ne suit plus son style de vie préféré. On s'aligne sur ce que Dieu nous dit dans sa parole. On ne suit pas non plus les courants du monde, à moins que tout cela puisse se trouver à l'intérieur ou dans les limites de ce que Dieu nous dit de faire. Mode physique, vestimentaire peut-être, mais les modes, la mode morale du pays, du monde, on ne peut pas. Ça, c'est le prix à payer. La main à la charrue. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Regarder en arrière, c'est perdre sa concentration. C'est perdre son engagement. C'est se laisser distraire par autre chose de ce qui doit être notre but numéro un, principal. C'est avoir des réservations au sujet de son engagement envers Dieu. Et si jamais on regarde en arrière dans ce sens, ben, nous avons lu les paroles de Jésus-Christ. Si on permet à autre chose de la vie de s'interposer entre nous et cette concentration, eh bien, nous regardons en arrière. Et un service militaire nous ferait faire cela. Un service militaire volontaire, surtout. Sixième phrase et dernière phrase. Christ a déclaré que son royaume n'était pas de ce monde. Ses serviteurs ne doivent donc pas se battre. Et ça, c'est vrai ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18. Regardons Matthieu 18. Pardon, Jean 18. Pas Matthieu 18, comment est-ce que j'ai lu Matthieu là? Jean 18. Jean chapitre 18, c'est dans son interview avec Ponce Pilate. Commençons verset 33 pour voir un peu le contexte. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi suis Juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré. » Est-ce qu'il pouvait avoir quelque chose de plus important que de sauver la vie du Messie? On connaît que c'était selon la volonté de Dieu que les choses se passent comme ça. Mais si les serviteurs de Dieu ne vont pas se battre pour sauver le Messie, est-ce qu'il y a un autre sujet pour lequel ils pourraient combattre, se battre? Non. Jésus était dans le monde, mais non pas du monde. Et ça, c'est vrai pour nous aussi, frères et sœurs. Ces théologiens catholiques croient que le royaume est maintenant dans le monde, qu'ils sont dans le royaume déjà. Alors, ils peuvent se permettre toutes sortes de choses. Mais Jésus a dit très clairement que son royaume n'était pas de ce monde. Nous sommes toujours dans le même monde qui existait alors. Et son royaume n'est pas là encore. Le royaume de Dieu va venir et sera établi au retour de Jésus-Christ. Tout cela est très clair. Les théologiens qui voulaient autoriser la guerre n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et à cause de cette mauvaise compréhension, ils veulent se permettre et permettre à d'autres des choses qu'on n'a pas envie de faire. On n'a pas le droit de faire. On ne peut pas. Maintenant, ceci nécessite de la foi en Dieu. Car un chrétien qui ne va pas faire la guerre, il ne va pas tuer pour sauver sa propre vie, ni la vie de ses proches. On ne va pas tuer, on n'est pas autorisé à le faire. Cela nécessite la foi en Dieu, la foi dans les promesses de Dieu, la foi que Dieu tient nos vies entre ses mains. Et que si Dieu décide de permettre à une chose injuste de nous arriver, c'est selon sa volonté. Et tout comme Jésus-Christ l'a accepté, nous aussi nous devons être prêts à l'accepter. Nous devons être prêts à l'accepter. Alors, puisque nous avons vu tout cela maintenant, puisque nous comprenons ce que la Bible dit à propos du service militaire et la guerre, qu'est-ce que l'Église conseille aux jeunes qui pourraient être appelés? Tout d'abord, la première chose à faire, c'est qu'il ne faut pas s'engager. Si on a la possibilité d'éviter de se trouver dans l'armée, évitez. Maintenant, je sais que parfois, dans certains pays africains, on voudrait bien faire partie de l'armée, ou un service militaire parce qu'on est payé, parce qu'on est logé, on est etc., etc. Ça peut être avantageux sur le plan financier. Et si on est fidèle à Dieu, Dieu nous rendra ce que nous aurions pu avoir autrement. Il promet de prendre soin de ceux qui cherchent premièrement son royaume et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est une question de foi. Donc, nous évitons le service militaire complètement quand c'est possible, même dans un poste non combattant. Parce que si on est dans un poste non combattant, on est toujours sous l'autorité militaire. Et cela veut dire qu'on peut avoir des problèmes pour le sabbat, pour les fêtes, etc. Et puis, ça peut arriver dans un cas d'urgence que des postes non combattants deviennent subitement combattants. Ça arrive aussi, parce que quand on est dans l'armée, tout ce qu'on aurait pu vous promettre avant, ça peut changer du jour au lendemain. C'était une blague aux États-Unis, parce que quand on essayait de faire inscrire des jeunes dans l'armée, on allait dans un centre de recrutement, et c'était c'était très connu, compromettait n'importe quoi verbalement, mais ce n'est pas ce qui était sur papier. Et toutes les promesses qu'on peut recevoir pour avoir un poste non combattant, pour avoir ceci ou cela, ou être envoyé sur telle ou telle région agréable, souhaitable, tout cela, ça passe par la fenêtre par la suite. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas accepter, quand on a la possibilité de le faire, même un poste non combattant, parce qu'on est toujours sous discipline militaire. Ça, c'est la première chose à noter. Deuxième chose à noter, dans les cas où c'est impossible de ne pas être pris par l'armée, on est appelé, une chose à faire serait, dans ce cas-là, de chercher à effectuer un service civil. Dans la plupart des pays occidentaux, je sais que ce n'est pas comme ça dans tous les pays, mais on peut opter pour faire un service civil. Assez souvent, ça dure plus longtemps que le service militaire, parce qu'il veut décourager les gens de le faire plutôt que de faire le service militaire. Mais on peut effectuer un service civil. Cela se faisait beaucoup en France quand j'étais pasteur là, sur place. Beaucoup de jeunes ont opté pour cela. Mais si ça, ce n'est pas une possibilité, comme dernier recours, ça serait de prendre un poste de non-combattant, de ne pas porter d'armes. Ça, c'est important, parce que du moment où on prend l'arme, on est obligé d'être prêt à l'utiliser. Si on est dans une unité et on a le fusil et on refuse de l'utiliser, eh bien, on laisse tomber ses camarades, ça peut créer énormément de problèmes, on peut même avoir la mort sur sa conscience pour ce qui se passerait par la suite. On ne peut pas être solidaire de ses compagnons qui compteraient sur nous dans une situation comme cela. Si on voulait demander d'autres conseils à ce sujet, vous pouvez contacter l'Église personnellement et nous essayerons de vous conseiller, de vous aider le plus possible. Nous pouvons fournir une lettre pour témoigner qu'effectivement ce sont les croyances de cette Église, que vous êtes membre, et parfois ça peut aider à trouver une solution également. Si on fait preuve de sagesse et de respect, il est presque toujours possible de trouver une solution pour éviter un service militaire et pour éviter évidemment de porter des armes, de faire un service civil à la place ou de demander de ne pas porter d'armes. Quand j'avais 17 ans, à 18 ans, j'aurais pu être appelé dans l'armée américaine, je me suis adressé une lettre recommandée avec accusé de réception. Et dans cette lettre, j'ai expliqué que je ne pouvais pas, que je ne ferais pas, par motif de conscience, je ne porterais pas d'armes et que je demandais d'être affecté dans un service civil à la place. Et j'ai gardé cette lettre, toujours fermée, jamais ouverte, je savais ce qu'il y avait dedans. C'était daté, on pouvait savoir que déjà depuis l'âge de 17 ans, j'avais un problème de conscience à tuer quelqu'un, à faire un service militaire. Maintenant, dans mon cas, je n'ai jamais eu besoin d'avoir recours à cette lettre, mais je l'ai toujours gardée. J'ai gardé jusqu'à ce que j'ai atteint l'âge où je ne pouvais plus être appelé si jamais ce service était réintroduit. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire pour montrer que c'est vraiment sérieux et que c'est pas une chose qu'on décide à la dernière minute parce qu'on a peur d'aller à la guerre, etc., etc. Parce qu'il y a des cas comme ça parfois dans le monde. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à une autre mission. Nous devons être de bons citoyens, respectueux des lois, payer nos impôts, etc., etc. Faire tout ce que nous pouvons, mais nous sommes appelés quand même à une mission plus haute qu'un service militaire. Nous représentons un autre gouvernement, un autre État, un autre royaume que les pays dans lesquels nous vivons actuellement. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. OK, il n'y a pas de verset 20 parce que c'est 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et notre message, c'est soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Ensuite, c'est soyez réconciliés entre vous. Les êtres humains devraient se réconcilier entre eux. C'est la volonté de Dieu qui verra le jour quand le royaume de Dieu sera établi sur cette terre. Nous cherchons la réconciliation de tous les êtres humains avec Dieu. Nous cherchons la vie et le bonheur pour tous les êtres humains. Et Dieu nous explique les clés. Et nous pouvons partager ces clés tirées de la Bible avec d'autres personnes. C'est ce que nous faisons dans l'Église de Dieu. Nous cherchons la vie pour tous dans le royaume de Dieu. Et nous ne devons pas donner la mort. Ça, c'est l'opposé de ce que le christianisme représente. Notre roi, avant tout, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils aient en abondance. » Ça doit être notre but principal également dans la vie, de chercher le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, de nous comporter comme Jésus-Christ l'a fait. Voilà, frères et sœurs, la croyance fondamentale numéro 16 de l'Église de Dieu, Association mondiale. Le service militaire et la participation à la guerre. J'espère que tout cela est clair. Si jamais quelqu'un aurait une question particulière ou personnelle à ce sujet, vous pouvez nous écrire et nous ferons de notre mieux pour vous répondre. Nous suivons quelqu'un qui est venu sur terre pour que nous ayons la vie. Poursuivons, recherchons la vie.